Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et nous allons commencer en parlant de la Centrafrique après l'offensive des groupes rebelles sur la capitale. Je vous rappelle que mercredi, les assaillants se sont introduits dans certains quartiers de la périphérie de Bangui. Ils ont fini par être repoussés. Bonjour Armand.
Bonjour.
Merci de nous appeler de Bangui. Vous avez été nombreux ces derniers jours à nous contacter pour nous raconter l'évolution de la situation. Vous disiez au Standard ce matin, Armand, que l'inquiétude gagne du terrain, que la population était finalement de plus en plus paniquée aujourd'hui.
Oui, vraiment, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Et pour vous rappeler, les rebelles de la CPC ont attaqué la capitale à cause des élections dernières que nous sommes en train de voir la suite. Que personne n'en doute. Ce qui est sûr, très sûr, la Cour constitutionnelle validera ces élections. Ben, les rebelles ont contourné la capitale. Et dans la capitale ici, on nous fait savoir qu'il y a leurs éléments qui se trouvent au kilomètre 5 dans des différents quartiers. Et vous savez, moi, je vous parle en tant que centrafricain, en tant que citoyen centrafricain. Je ne suis pas du parti politique MCU, ni de Beafrica Tikwe, ni du KNK. Je parle dans l'intérêt supérieur de la nation, pour la paix et le bonheur du peuple centrafricain. Ces élections doivent être invalidées. Invalidées par la Cour constitutionnelle pour des raisons suivantes. Premièrement, l'AUNE n'a pas pu enrôler bon nombre de centrafricains.
Oui, c'est vrai.
Et au second plan, le minimum que l'ANE a enrôlé ne s'est pas tous prononcé le 27 décembre dernier.
Ouais. On dit que la moitié des électeurs inscrits a pu voter le 27 décembre à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Mais si la moitié des électeurs n'a pas pu se déplacer dans les bureaux de vote, c'est à cause des groupes rebelles qui ont semé l'insécurité à travers le pays.
Oui, oui, c'est à cause de ces rebelles-là. C'est à cause de l'insécurité. Parce que un homme doit aller aux urnes, aller se prononcer dans la tranquillité d'esprit. Mais la personne est inquiète comment il ira faire la queue pendant 2 ou 3 heures du temps pour aller choisir son...
Oui, son candidat. Donc vous auriez souhaité, Armand, que le scrutin présidentiel et les législatives soient reportés. Reste avec nous, Armand. Je vous présente l'un de vos compatriotes. Il est centrafricain, mais il vit en France. Il est à Auxerre. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, Juan.
Est-ce que vous partagez l'opinion d'Armand à l'instant qui dit qu'il aurait fallu, en fait, pour bien faire les choses, reporter le scrutin ?
Non, je ne partage pas son opinion, tout simplement parce que il y a une constitution qui est là. Il y a des règles. Il faut respecter ces règles. Il faut faire de sorte que les institutions centrafricaines puissent marcher normalement et que la date de l'élection qui a été donnée, l'élection devait avoir lieu. Si les groupes rebelles poussés par Bozizé et l'opposition, je vais le dire, que ce soit Doulé Guéné ou Tchangaï ou Martin Ziguélé, qui veulent repousser les élections pour avoir la transition, parce que, rappelons qu'au mois de mars, le gouvernement voulait mettre un cas de force majeure dans la Constitution.
Au mois de mars, là on rentre dans du détail, mais enfin pour que tout le monde comprenne, au mois de mars, effectivement, il se disait dans l'entourage du président Touadéra qu'on reporterait l'élection présidentielle en cas de force majeure, mais c'était à cause de l'épidémie Covid-19. Finalement, la pandémie a été maîtrisée, donc on a pu respecter la date, mais effectivement, à l'époque, au mois de mars, l'opposition ne voulait surtout pas entendre parler d'un report. Et puis, plus on s'approchait du scrutin, mais pour d'autres raisons, l'opposition réclamer un report. Mais cette opposition aujourd'hui, elle réclame la tenue d'un dialogue. Est-ce que vous pensez que l'issue de cette crise passe par un dialogue inclusif, comme le réclament notamment Anis et Georges de Loguélé, dont vous citiez le nom à l'instant?
Je ne pense pas. Je veux, je pense que on doit appliquer les règles de la République et les dialogues ou les négociations, Si on continue toujours comme ça, la Centrafrique, depuis 1981, avec les Patati, les Bouzizi, qui voulaient tuer David Dacko en 81, on restera toujours dans les dialogues, et le pays ne va pas avancer, bah et les institutions de l'État ne vont pas vivre normalement.
Mais que fait-on que fait-on? On a des groupes rebelles en ce moment, qui ne souhaitent qu'une chose, c'est d'organiser un coup d'État, de renverser le président Touadéra. Alors, que fait-on, Bienvenue?
Ce qu'on peut faire en ce moment, je pense, ça c'est mon opinion, c'est que le président actuel, Touadéra, a toujours son mandat court jusqu'au 30 mars. Hein. On doit prendre, l'État centrafricain, à travers ses institutions, mettre en place un état d'urgence comme loi martiale. On essaie de mettre en résidence surveillée les opposants, Ouattara l'a fait. On essaie
oui, mais les opposants, vous avez par exemple l'opposant Crépin Mboli Goumba qui hier, dans une lettre ouverte au président, a clairement condamné toute tentative de prise de pouvoir par les armes.
Mais ceux qui n'ont pas condamné, Dolé Guélé en premier, Zigélé, le fils de Bokassa et Tchangaï qui n'ont pas condamné, il faut pour leur sécurité aussi, leur sécurité, les mettre en résidence surveillée.
Bon, en tout cas, Anissé Georges de Loguélé a appelé le chef de l'État à rassembler tout le monde autour d'une table, toutes les forces vives de la nation, et dans un communiqué, il précise la tenue d'un dialogue véritable et inclusif afin de garantir une paix durable et une cohésion nationale. On aura l'occasion, évidemment, dans les prochains jours, de vous redonner la parole sur la situation instable en Centrafrique. On a encore des questions, on y répondra évidemment la semaine prochaine. Il y a d'autres sujets dans l'actualité qui ne vous ont pas laissé indifférent, et notamment cette procédure de destitution contre Donald Trump. Landry, bonjour.
Juan.
Bonjour Landry, vous êtes au Gabon, merci de nous appeler. Oui. La Chambre des représentants à majorité démocrate a donc voté la procédure de destitution. Vous applaudissez, oui. Vous saluez, vous disiez au Standard, il faut tout faire pour mettre hors d'état de nuire Donald Trump.
Oui.
Eh bien, vous écoutez, allez-y, Landry.
Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que ça envoie un mauvais signal aux pays du tiers-monde, aux chefs d'État qui sont actuellement au pouvoir. Parce que dans une démocratie qui se respecte, celui qui gagne, gouverne. Il y a toutes les procédures qui font en sorte que, qu'il peut contester, il a contesté les résultats, on a recompté les buts, on a recompté dans certains États, on a recompté les voix. S'il est parti, il est partant. Au lieu de faire au lieu de donner à ses partisans l'occasion d'aller envahir le Capitole, qui est quand même l'un des monuments de la démocratie américaine.
Ouais.
Donc, moi, je suis d'accord qu'il parte.
Ouais. En même temps, vous savez très bien, Landry, que ce sera très compliqué de le destituer d'ici à mercredi prochain.
Juan, je sais pertinemment que ce sera compliqué, mais au moins, ça envoie un signal fort au prochain pour ne plus se mettre dans ce genre de position. Parce que Donald Trump, il a divisé l'Amérique en deux, et ça veut dire qu'il y a des gens qui partagent les mêmes valeurs que lui.
Ah bah, ils sont nombreux à partager, ils sont nombreux à soutenir Donald Trump, alors peut-être pas à cautionner ses derniers propos, les propos de la semaine dernière, avant de galvaniser la foule pour aller envahir le Capitole, mais vous avez quand même 74 millions d'Américains qui ont voté pour lui.
Oui, justement ce que j'ai dit, et pour pouvoir bloquer ces gens, il faut bien envoyer des messages forts. Et c'est ce que le Sénat est en train de faire pour pouvoir mettre une institution. Je sais que ça n'aboutira pas, mais au moins c'est pour montrer un signal fort.
D'accord. Et puisque vous parlez de bloquer, le fait que plusieurs réseaux sociaux, pour ne citer que quelques-uns, Facebook, Twitter, YouTube, ont bloqué Donald Trump, c'est une bonne initiative, parce que on entend ici et là, oh là là, scandale, c'est de la censure.
Oui, mais moi je suis contre là.
Contre quoi ?
Parce que si nous devons sanctionner la liberté d'abord, la liberté d'expression est d'abord menacée. Ensuite, si nous devons sanctionner, tout le monde. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui participent là-dedans. Mm-hmm. Il y a, par exemple, en Iran, nous trouvons des gens qui appellent à détruire Israël, qui continuent toujours à écrire, etc. Alors, Donald Trump va se mettre là-dedans en tant que victime, et ça va donner le poids à ses partisans.
Mm. Donc il aurait fallu laisser Donald Trump continuer à s'exprimer sur les réseaux sociaux comme il l'a fait quotidiennement, plusieurs fois par jour même, depuis 4 ans, depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Landry, merci infiniment de cette discussion. Bonne journée, puis j'en profite pour vous signaler que mercredi, à cette heure-ci, on sera en pleine émission spéciale à l'occasion de la prestation de serment de Joe Biden, et ce sera l'occasion évidemment de répondre à toutes vos questions sur l'Amérique de Joe Biden, ses projets, aussi bien évidemment en politique nationale qu'internationale. Nous allons parler du coronavirus avec ce témoignage, celui de Machinda. Il nous a contacté de Virginia, en Irlande. Machinda, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous souhaitiez profiter de la libre antenne, justement, pour témoigner de la dégradation de la situation sanitaire en Irlande. J'ai regardé, évidemment, un peu ce qui se passait, parce que je ne suis pas au fait, et ça va très très mal sur place. Excusez-moi de le dire aussi, de façon aussi simple, mais le pays enregistre le taux d'infection le plus élevé du monde.
Oui, les gens ne se rendent pas tout de suite compte, hein. Même ceux qui habitent sur cette île, parce que nous sommes à près de 5 millions d'habitants, et le taux de contamination ainsi que les morts au quotidien, ces taux sont vraiment alarmants. Mmh. Nous avons compté 29 morts rien que pour la journée d'hier, ce qui est déjà énorme pour ce pays-ci.
Tout à fait.
Dans le comté où j'habite, on a 3609 cas, si je me trompe pas, de mémoire comme ça, 3609 cas depuis le début de la pandémie. Mm. Et à Dublin, qui est le comté le plus peuplé, donc où se trouve la capitale, les choses sont encore plus dramatiques.
Oui. Alors, donc, il faut bien effectivement voilà. Qu'on ait en tête, parce que les chiffres, vous dites 29 morts, ça, effectivement, ce sont des morts de trop, mais ça semble peu par rapport à l'ampleur que prend qu'a pris cette pandémie depuis maintenant un an. Mais il y a un chiffre, moi, que je trouve très parlant et qui a été publié dans le journal de Dublin. Près de 1400 cas de Covid-19 par million d'habitants. 1400 cas. Aux États-Unis, ils en sont à 653, vous voyez, 653. Au Royaume-Uni, à 810. Vous, en Irlande, vous êtes à 1400 cas, donc c'est colossal. Comment vivez-vous cette situation, Machinda? J'imagine que vous êtes confiné à la maison, je ne sais pas quelle est la situation. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'urgence?
Alors, nous sommes passés à l'étape en suprême, si je peux ainsi m'exprimer, donc le niveau 5, level 5. Mmh. Donc, les déplacements sont réduits au maximum. Nous n'avons plus le droit maintenant que de circuler dans un rayon de 10 kilomètres de nos lieux d'habitation. Alors, les contacts entre familles ont été réduits au maximum. Mmh. Et nous n'avons plus le droit maintenant que de recevoir une seule famille en visite, quoi.
Une seule famille, mais une famille, c'est limité en nombre de personnes, j'imagine.
Ah, voilà.
Parce que si vous m'invitez moi et ma famille, on est nombreux, vous voyez, donc j'imagine qu'on y met... Non, mais c'est un peu... Je plaisante un peu sur un sujet aussi dramatique, mais
aussi dramatique,
dans certains pays, oui. On limite à une seule personne, par exemple. On ne peut recevoir qu'une
et
seule
ici,
personne.
On nous a parlé de 6 personnes.
Ah, 6 personnes tout de même. Ah oui, d'accord. Machinda, vous savez quoi maximum. Machinda, on garde le contact. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci vraiment de nous avoir appelés. Et on prendra des nouvelles de l'Irlande régulièrement dans la libre antenne. Vous nous appelez et on vous passera évidemment à l'antenne. Merci à vous, prenez soin de vous et de vos proches. L'élection présidentielle au Bénin, 11 avril, retenez cette date, elle est officielle depuis quelques jours. Patrice Talon devrait sans surprise se représenter pour un second mandat. En tout cas, l'opposition affine sa stratégie pour essayer de provoquer l'alternance. Bernardin, bonjour.
Bonjour, Juan.
L'opposition s'organise, elle forme une alliance en ce moment, il y a des discussions, des tractations, et vous dites, l'opposition s'unit, ce n'est pas trop tôt.
Voilà, merci. Bonjour à tous les auditeurs. C'est vrai que le regroupement des forces politiques qui se réclament de l'opposition pour proposer une alternative au régime du président Patrick Talon est la bienvenue. Mais je crains que ce regroupement n'intervienne un peu tardivement. Nous sommes à 2 mois des élections et c'est maintenant que l'opposition se regroupe. On n'a même pas encore de candidat désigné. Mmh. Je crois que c'est un peu tard. Mais là n'est pas la question principale. L'équation qui se pose aux Béninois, c'est de savoir comment participer à un jeu politique bridé. Parce que il y a deux écueils de taille. Premier écueil, c'est le problème du parrainage.
Ah oui. Mmh.
L'opposition a été écartée des élections législatives. L'opposition a eu trop de problèmes pour participer aux élections
municipales. Il y a une grande partie de l'opposition qui a boycotté. C'est-à-dire que, pour dire clairement les choses, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est monocolore. Et la quasi-totalité des maires sont également de la mouvance présidentielle. Or, désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 16 parrainages de députés ou de maires. Bon, alors évidemment, quand on voit que la majorité des élus sont de la mouvance présidentielle, on se demande si l'opposition va pouvoir obtenir des parrainages. Et donc,
voilà,
se présenter.
Donc. Oui. Voilà, premier cas. Donc, le président Patrice Talon a toujours déclaré publiquement qu'il est un compétiteur. Mais un compétiteur n'attache pas les mains et les pieds de ses concurrents dans le dos avant de donner le top de la compétition. Ça, c'est de la triche.
Bah, c'est
il faut libérer le jeu.
Oui. Alors, c'est de la triche. En même temps, ce système de parrainage, il a été adopté par les députés qui sont censés représenter le peuple. Il a promis qu'il y aurait des candidats, plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire que la consigne a été donnée au sein de la mouvance présidentielle pour que des élus de la majorité présidentielle donnent leur soutien à des candidats de l'opposition. On verra si le pas sera franchi, si le cap sera franchi. On va suivre de près, évidemment. Et je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément les Béninois. C'est le sujet qui fait débat en ce moment au Bénin. On a eu l'occasion d'en parler cette semaine et on en reparlera dans les prochains jours. Merci infiniment. Je vous interromps, je regarde la pendule, mais je voudrais qu'on parle de la grève des fonctionnaires au Tchad. On a reçu des commentaires sur Facebook et WhatsApp. Vous avez été quelques-uns à nous écrire de N'Djamena. Bonjour Osana.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous n'êtes pas dans la capitale tchadienne, hein, mais vous nous avez écrit de Béboto, c'est au sud.
Allô
du Tchad. Vous m'entendez Osana?
Oui, je vous reçois.
Et moi aussi, 5 sur 5. Je disais que vous êtes donc à Béboto, dans le sud du pays. Cette grève des fonctionnaires, qui est une grève générale et illimitée, elle vous agace, elle vous exaspère?
Oui, Juan. Au Tchad, on assiste souvent à des grèves à répétition, ce qui occasionne parfois la fermeture des écoles, des universités, des hôpitaux. Ah, et ça joue énormément sur l'éducation de nos enfants, la formation des jeunes, et pire, les gens meurent par faute de soins. Tout simplement parce que les médecins refusent de travailler.
Oui, mais alors Osana, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que bon, j'ai cru comprendre que certes, à N'Djamena, dans la capitale, les services fonctionnent au ralenti, mais qu'il n'y avait pas de problème au niveau des hôpitaux, même s'il faut patienter un peu plus que d'habitude. Mais vous êtes en train de me dire qu'à Béboto, dans le sud du Tchad, dans votre ville, les hôpitaux, je ne sais pas, j'emploie le pluriel, mais je ne sais pas s'il n'y en a qu'un ou plusieurs, mais en tout cas, le service hospitalier est en grève, personne ne travaille. Donc les hôpitaux sont fermés.
Oui, les centres de soins sont fermés ici, parce que les médecins disent que tant que le gouvernement ne répond pas à leurs revendications, ils ne vont pas travailler. Et vous savez, ici, il y a des manques des infrastructures d'abord. Et quelques infrastructures qui sont là, qui refusent de fonctionner, déjà, je vous assure que c'est le calvaire. Et donc, nous interpellons vivement les hautes autorités, parce que l'État tchadien a les moyens. Le gouvernement, parce qu'on est dans un pays qui exploite le pétrole, donc pas question de ne pas répondre à la revendication des syndicats.
Bien sûr, les syndicats qui réclament la restauration des indemnités gelées depuis 2016, le gouvernement avait promis de les rétablir en décembre. Bon, nous sommes le 15 janvier, elles n'ont toujours pas été rétablies, d'où le lancement de cette grève générale. Vous parliez du pétrole, mais sans me faire l'avocat des autorités, le cours du pétrole a énormément chuté ces derniers mois, donc ça fait moins d'argent dans les caisses de l'État, et c'est compliqué évidemment pour un pays comme le Tchad qui repose essentiellement sur le pétrole, et bien de tenir ses engagements auprès des centrales syndicales. Osana, en tout cas, merci infiniment de nous avoir appelé. Bonne journée à Béboto. Il y avait d'autres sujets dans la libre antenne, le Mali, notamment après la mission de la CDAO ces derniers jours pour faire le point sur la transition, des réactions sur la République démocratique du Congo. Mais chers auditeurs congolais, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, et notamment le volet politique, hein, puisque le président Tshisekedi continue à essayer de trouver une majorité, une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Tiens, bah lundi, on parlera du Congo, de la RDC, mais surtout de Patrick.